Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan. Nous sommes cette semaine à l'occasion des 20 ans du site ANRS de Côte d'Ivoire. L'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, est un organisme français qui mène des recherches avec les pays du Sud et entre autres justement avec la Côte d'Ivoire. Ce pays de 24 millions d'habitants connaît depuis 3 ans une forte croissance de plus de 8%, mais la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec concrètement des difficultés d'accès aux soins. Et malgré ce contexte difficile, des recherches médicales sont menées pour améliorer la prise en charge de certaines maladies infectieuses. Alors on nous reproche parfois de ne pas assez parler des recherches menées par des scientifiques africains. Eh bien aujourd'hui, nous leur donnons la parole et vous allez voir concrètement l'utilité de ce travail, comment des chercheurs du Nord et du Sud travaillent ensemble, pourquoi est-ce indispensable de mener ces études sur le continent africain. Alors ils sont 6 autour de cette table pour en parler. Le professeur Thérèse Ndri, d'abord, qui est coordinatrice sud du site ANRS PAXI, ancien ministre de la Santé en Côte d'Ivoire, le professeur Serge Éolier du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville, co-coordinateur sud du site ANRS, le docteur Raoul Mo qui est épidémiologiste chargé de recherche au département de dermatologie et infectiologie UFR Sciences Médicales Université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Serge Domois du programme national de lutte contre la tuberculose qui est également chef de service de pneumologie au CHU de Trècheville, le docteur Irma Obabobo du programme national de lutte contre le sida et Yaya Koulibaly qui est président de RIP+, qui est un réseau des organisations de patients vivant avec le VIH-Sida.
RFI.
Bonjour à tous. Professeur Thérèse Ndri, bonjour. À l'occasion donc des 20 ans du site ANRS de Côte d'Ivoire, vous organisez des journées scientifiques aujourd'hui et demain. J'imagine que l'objectif, c'est pas tellement de faire le bilan des 20 ans, mais plutôt de vous projeter dans les 20 ans à venir.
Effectivement, nos journées, nous avons fait peut-être le bilan de façon partielle il y a quelques années. Nous allons terminer ce bilan, mais aujourd'hui, c'est surtout de montrer ce que nous voulons faire dans les temps prochains, particulièrement l'ouverture sur d'autres projets. Et nous avons commencé avec les hépatites virales. Nous allons poursuivre.
C'est ça, au début, vous étiez très connu, recherche sida.
Sida. Et aujourd'hui, c'est montrer que nous pouvons faire autre chose que le sida. Et aussi, nous pensons faire de notre programme de recherche une institution de recherche en Côte d'Ivoire.
Alors, il y a beaucoup de recherches scientifiques sur, par exemple, l'efficacité d'un médicament, mais il y a aussi des recherches en sciences sociales, et c'est important qu'elles se développent pour qu'on comprenne finalement comment les patients réagissent vis-à-vis de la maladie.
Oui, parce que nous faisons beaucoup de recherches opérationnelles. Nous avons de bons résultats, mais parfois nous avons du mal à les appliquer. Et nous nous rendons compte que ce sont des obstacles socio-culturels qui freinent la mise en application réelle de ces résultats. Donc nous avons voulu ouvrir aussi nos thématiques sur les sciences sociales. Et je crois qu'Abidjan constitue un bon pôle de recherche sur les sciences sociales. Nous sommes associés à l'ENSEA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Et ça nous donne beaucoup d'informations sur les aspects culturels qui sont encore, je pense, exacerbés avec la stigmatisation, la discrimination des patients.
Et un VIH. Frein à l'accès aux soins.
Et un frein à l'accès aux soins.
Il y a un bon exemple, c'est la PTME, la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant. C'est à la fois un bon exemple de vos recherches depuis 20 ans, parce que vous êtes emblématique pour les recherches là-dessus, mais c'est aussi un bon exemple du « on sait tout à fait ce qu'il faut faire ». Mais n'empêche que sur le terrain, on n'y arrive pas encore très bien.
Effectivement, la PTME constitue le maillon faible dans la prise en charge des patients parce que nous avons tous les moyens, effectivement, de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant, mais nous nous heurtons aux aspects socioculturels. Les mères ayant la crainte d'informer les conjoints et devant les questions que se pose l'entourage pour une femme enceinte qui prend des médicaments ou qui refuse d'allaiter son enfant, et bien sûr que la maman, sachant séropositive, ne va pas revenir pour avoir les soins adéquats. Et nous avons encore ce que nous appelons une chute drastique depuis les premières étapes entre la proposition des soins et la dispensation du médicament pour prévenir le VIH.
C'est très lié aussi au problème de suivi de la grossesse de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un traitement, justement, pour que la femme soit suivie en prévention de la transmission mère-enfant, il faut qu'elle soit suivie pour sa grossesse, et on sait bien que c'est pas souvent le cas dans les pays en développement. Je disais que c'était aussi emblématique ce que vous avez fait sur la prévention de la transmission mère-enfant, parce que ça fait 20 ans que vous menez des recherches là-dessus, et que ces recherches, c'est ça qui a permis qu'un protocole soit établi sur ce qu'il faut faire et entre autres donner un traitement pendant la grossesse.
Oui, surtout en Afrique, c'était important de démontrer qu'on pouvait faire des études sérieuses avec des résultats probants et les appliquer. Je pense que ça, la démonstration a été claire et je peux même dire le nom de ce projet, c'est DITRAM. Et justement, avec le premier DITRAM qui a testé seulement l'azidovudine, donc l'AZT, on a fait DITRAM plus où on a associé d'autres molécules pour augmenter l'efficacité des protocoles et même chez les enfants. Nous avons même testé les mères allaitantes parce que vous savez qu'au début, ce n'était pas évident de savoir si l'allaitement transmettait le VIH ou non, mais là, c'est très clair que l'allaitement transmet le VIH si c'est un allaitement mixte.
Et ce qui est important aussi maintenant, si j'ai bien compris, c'est que les préconisations, c'est que la femme allaitante soit sous traitement et dans ces cas-là, il n'y a pas de risque de transmission.
Voilà.
On reparlera longuement avec vous, hein, Thérèse Ndry, de toutes les recherches qui sont menées par le site ANRS de Côte d'Ivoire. Professeur Serge Ollier, on va parler d'un essai très concret qui est un exemple, je pense, dont vous êtes certainement très fier ici en Côte d'Ivoire. C'est l'essai Temprano qui est mené uniquement en Côte d'Ivoire, qui montre que les antirétroviraux doivent être donnés le plus précocement possible. Comment d'abord a été mené cet essai?
Les essais que l'on mène en Côte d'Ivoire dans le cadre du site PAXI partent toujours de réflexion sur la prise en charge de patients infectés par le VIH dans le cadre d'une amélioration. Et Temprano faisait suite à un premier essai d'interruption thérapeutique programmée qui était trivacant. On avait réfléchi en se disant, n'y aurait-il pas un bénéfice de commencer encore plus tôt? Trivacant, on avait quand même à moins de 350 CD4 qui n'étaient même pas encore la recommandation.
C'est ça, pour que le grand public comprenne bien, c'est les CD4 qui permettent de savoir à quel moment on met la personne sous traitement.
On va dire que c'est la barrière de sécurité. Donc on se définit une barrière de sécurité en disant qu'en dessous de cette barrière, on va tomber malade. Et donc la barrière de sécurité, quand on a commencé, c'était donc ces CD4. À l'époque, l'OMS disait 200. Et avec le projet d'interruption thérapeutique, on s'était dit qu'à moins de 350, quand même, il fallait avoir remonté cette barrière de sécurité.
Elle est remontée à 500 aujourd'hui?
Elle est remontée à 500 en cours d'essai. Et en cours d'essai aussi, nous avons revu nos stratégies et nous avons remonté notre barrière à risque en dessous de 800 CD4. Et l'OMS, la recommandation, c'est moins de 500. Et avec Temprano, on montre qu'en commençant en dessous de 800, c'est déjà assez haut, hein, parce que les patients sont encore vus dans nos sites à moins de 150. On réduit considérablement les maladies qui surviennent chez les patients infectés par le VIH, supposé bien portant, parce qu'ils sont au-dessus de la barrière de sécurité, les infections bactériennes. C'est très peu documenté au Nord, c'est assez spécifique des pays du Sud, ces infections bactériennes. Ce n'est pas le même profil que l'on a dans la morbidité au Nord, et la tuberculose. Et donc, on pourrait dire que ce sera potentiellement un game changer. Si les futures recommandations OMS qui devraient apparaître en fin 2015 prendront en compte les résultats de l'essai Temprano.
Mais devraient, en fait, c'est même ce qu'on, a priori, à partir du moment où il y a eu un essai scientifique qui prouve que ça vaut le coup de prendre en charge le plus tôt possible, de mettre sous traitement le plus tôt possible, a priori, l'OMS devrait changer ce qu'on appelle ses guidelines, ses recommandations.
Pour le moment, je ne peux pas dire, parce que le groupe ne s'est pas encore réuni, mais Temprano fait partie des éléments clés pour revoir ces modifications. C'est-à-dire que si ces modifications changent, on se rapprochera, on va arrêter carrément le double standard, puisqu'en France, aux États-Unis, on dit de commencer le traitement sans tenir compte des CD4, mais ça pourrait aussi être utile pour tous les pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est ce qui est intéressant dans ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Ces résultats ne sont pas applicables qu'à la Côte d'Ivoire, mais transposables aux autres pays. Mais avant tout, même si on change pour l'OMS, ceux qui doivent s'approprier les résultats sont les nationaux. Donc c'est le programme national de lutte contre le sida.
C'est-à-dire que effectivement, vous l'avez dit, en France, dans les pays occidentaux, on met les patients sous traitement dès qu'on découvre qu'ils sont porteurs du VIH-sida. On ne tient pas compte de ce niveau de CD4 ou pas, on met tout de suite sous traitement. Ça fait un moment qu'on a compris que c'était utile. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le gouvernement ivoirien pourrait tout à fait décider de mettre les patients sous traitement dès qu'ils découvrent leur séropositivité.
Oui, mais c'est pas tous les pays occidentaux qui l'ont compris. En Grande-Bretagne encore, ils adaptent, ils ne prennent pas quel que soit le taux de CD4. Et raison pour laquelle je dis que Temprano va être utilisé aussi par d'autres pays dits développés.
La recherche du Sud peut servir au Nord.
Pour nous, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud dans la recherche. C'est de la recherche sans frontières. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Temprano, on en est particulièrement fiers. Et il s'agit aussi que la partie nationale qui assure la mise en œuvre des résultats en soit fier et se l'approprie. Et je crois que c'est en train d'être mis en œuvre. On a déjà présenté nos résultats au programme.
C'est ça. Juste un dernier mot. Et en plus, cet essai Timprano a été présenté le mois dernier à la CROI, qui est le grand congrès international sur les rétrovirus. Ce qui est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire de présenter un essai mené dans son pays par des chercheurs africains.
Pour la Côte d'Ivoire, pour la communauté de recherche francophone, parce que l'ANRS est promoteur de ce projet. Et juste après la présentation de Timprano, ce qui est vraiment important, l'OMS a fait une déclaration valorisant ses résultats et disant qu'ils allaient l'utiliser pour les prendre en compte pour les futures recommandations à venir.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, Priorité Santé est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion des 20 ans du site de l'ANRS. On parle concrètement des études qui sont menées, mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est quelle est l'application pour les patients. Docteur Irma Aoba-Bobo, vous travaillez au PNLS, le Programme National de Lutte contre le Sida. En quoi, finalement, le fait que ces études soient menées en Côte d'Ivoire vous aide-t-il? J'ai envie de dire, est-ce que du coup, vous bénéficiez plus rapidement des innovations?
Je dirais que le Programme national de lutte contre le sida a été vraiment impliqué dans cette étude Timprano et de manière générale dans les études qui sont faites par PAXI. Et les sujets de recherche sont des sujets de recherche qui intéressent le Programme national. Donc dans ce cadre-là, il faut dire aussi que dans le cadre des directives nationales, le programme met en place un processus de consensus pour adopter les directives nationales qui sont très influencées par les recommandations que l'OMS sort. Donc, comme l'a dit professeur Ollier tout à l'heure, c'est sûr que Timprano va influencer les recommandations de l'OMS et que nous aussi, au niveau national, nous aurons à les analyser. Nous verrons les implications programmatiques, opérationnelles et aussi financières de ces nouvelles recommandations.
Et oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que mettre les patients plutôt sous traitement, ça veut évidemment dire mettre plus de patients sous traitement et forcément ça coûte plus cher.
Tout à fait. Donc le fruit de ces discussions sera remonté à la tutelle qui pourra prendre des décisions éclairées en tenant compte de notre contexte au niveau du pays. Ce sont ces éléments-là qui sont très importants parce que c'est vrai que nous souhaitons tous réduire la morbidité et la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH, mais aussi il faut tenir compte du contexte actuel du pays.
Voilà. Mais docteur Irma Aoba-Bobo, concrètement, comment le PNLS, le Programme National de Lutte contre le Sida, travaille avec l'ANRS? De façon très concrète, ça se passe comment? Serge Eolier, quand il démarre un essai Timprano, il vient vous voir pour vous en parler, ça se passe comment?
Tout à fait. De manière générale, le PAXI travaille avec le Programme national et le ministère de la Santé. Et lorsqu'il y a des questions de recherche, nous travaillons avec PAXI pour voir si ces questions de recherche nous intéressent aussi. Et généralement, nous faisons partie des comités qui sont mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces différents projets.
Est-ce que ça veut dire aussi que vous pouvez de temps en temps dire à l'ANRS, mais là, par exemple, nous, on a une difficulté, enfin, je sais, mais que dans l'ANRS, c'est forcément au courant, par exemple, sur la prévention de la transmission mère-enfant, on a du mal à ce que ce soit vraiment effectif sur le terrain. Est-ce que vous ne pouvez pas mener aussi des recherches là-dessus? Est-ce que ça vous arrive de dire, mais nous, on aurait besoin d'informations là-dessus?
Tout à fait. Je pense que notre contribution ne s'arrête pas à recevoir les préoccupations de PAXI. Nous aussi, nous avons nos difficultés sur le terrain et au cours des réunions que nous avons, nous posons les problèmes et on voit comment les intégrer dans les projets de recherche qui sont en cours.
J'imagine que Thérèse Ndry, vous avez envie de réagir à ça sur justement comment vous travaillez pour que les recherches que vous meniez soient vraiment utiles sur le terrain.
Oui, effectivement, on a parlé de directives, mais je crois que la première chose, c'est de savoir si la question que nous posons est une question partagée par l'ensemble des acteurs de prise en charge. Donc, ça me permet de revenir sur un des travaux de recherche que nous avons réalisé, notamment la prévention des affections opportunistes par le cotrimoxazole, qui a également reçu l'approbation de l'OMS pour faire une large prescription au niveau des pays africains, mais aussi dans le monde, pour ceux qui partagent le même profil épidémiologique que les malades ivoiriens. Et nous avons travaillé avec le programme, nous avons travaillé avec le monde scientifique, notamment les bactériologistes, les infectiologues, pour voir si cette recommandation pouvait être acceptée d'abord au niveau national. Et c'est ce qui a été fait. Après le consensus national, il y a eu un consensus africain au cours de réunions scientifiques de haut niveau. Et lorsque ces résultats ont démontré vraiment leur efficacité dans une population plus large, l'OMS s'est saisie de ces recommandations pour faire une directive internationale. Donc, je pense que nous travaillons de façon progressive. Donc le programme étant impliqué, parce que vous avez vu le sigle, on n'a pas détaillé le sigle du programme PACSI, mais le P, c'est le programme national de lutte contre le sida. Donc le programme est impliqué dans la recherche, dans le comité scientifique, dans le comité de suivi et effectivement la mise en œuvre sur le terrain.
Du coup, donnons les autres sigles, le C, c'est coopération, donc, et le C, et le voilà. C de la fin, donc, c'est Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, justement, puisque vous dites ça, je vous ai présenté en disant que vous êtes coordinatrice sud du site ANRS, donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a une coordinatrice ou un coordinateur nord, et ça c'est bien parce que vous travaillez ensemble, nord-sud.
Vraiment. C'est un partenariat binational d'abord, Côte d'Ivoire et France. Donc nous avons un coordonnateur sud ivoirien.
C'est
vous? Pour le moment c'est moi, mais avant moi c'était le professeur Kadio Auguste. Et nous avons des coordonnateurs nord. Donc on a eu le professeur Salamon et ensuite docteur Xavier Anglari qui est le coordonnateur sud actuellement.
Et qui est vraiment basé ici en Côte d'Ivoire.
Qui est chercheur de l'INSERM, mais qui a été détaché auprès de l'ANRS site Côte d'Ivoire.
C'est ça. Donc, on est vraiment dans un bel exemple de coopération nord-sud. Yaya Koulibaly, je l'ai dit, vous êtes président de RIPPLUS, un réseau des organisations de patients vivant avec le VIH SIDA. J'avais aussi envie de comprendre comment des associations de patients sont, amenées à participer à ces essais, sont inclus dans ces essais. Comment, justement, aussi, on vous demande un peu votre avis sur la façon de faire?
Je dirais que jusqu'en 2009, nous étions des invités aux journées PACSI. Et c'est seulement à partir de 2010 que nous avons réussi à signer une convention de partenariat avec le programme qui amène le programme PACSI à nous impliquer dans tout ce qui est fait comme recherche en Côte d'Ivoire. C'est également en collaboration que les formulaires d'enquête sont élaborés. Et puis le RIPPLUS est également invité aussi à toutes les présentations du programme PACSI. Et il faut dire que cette collaboration aussi a contribué à amener le milieu associatif ivoirien à s'engager un peu plus, à s'intéresser à la recherche, ce qui a amené le RIPPLUS à écrire un projet qu'on a appelé MEDA, c'est sur les médicaments et ARV.
C'est ça. Et donc, du coup, parce que j'imagine que pour faire des essais thérapeutiques, il faut inclure des patients et que là, le réseau associatif peut être intéressant. Vous-même, vous avez participé à un essai thérapeutique?
Oui, en 1990, le professeur Ndoule en parlait tout de suite. J'ai participé à l'essai sur le cotrimoxazole. Et un essai qui a fait ses preuves aujourd'hui au niveau mondial. C'était une très bonne initiative. Au début, beaucoup d'appréhension, mais finalement, on a compris que c'était une très bonne chose et c'est une pratique qu'on essaie de partager avec les amis. Et ils sont tous encouragés à participer et à contribuer.
C'est ça que j'avais envie de vous demander. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension à participer à des essais thérapeutiques? On se demande, mais mon Dieu, mais je vais essayer un médicament, avec toujours l'image que tout le monde a de cobaye. Ou au contraire, les gens se disent, mais c'est une super opportunité d'avoir les traitements, je dirais presque, avant tout le monde et d'être encore mieux suivi.
Bon, avant, c'était plutôt la peur des effets secondaires des médicaments. Maintenant, les gens commencent à comprendre l'importance et puis certaines assurances sont de nos patients qui concernent les effets secondaires potentiels. Voilà, donc de plus en plus, le milieu associatif s'intéresse et participe un peu plus à la recherche.
Et vous avez du mal à convaincre les adhérents de vos associations, les patients, à participer à ces essais thérapeutiques?
Depuis que nous participons à l'élaboration des formulaires d'enquête, je crois que c'est un peu plus facile pour nous, parce que certaines garanties, certaines dispositions sont prises au niveau de l'enquête pour nous assurer que même en cas de difficulté ou en cas d'échec thérapeutique, les patients ne seront pas abandonnés, laissés pour compte et ils vont bénéficier d'une prise en charge totale.
On se retrouve dans 3 minutes juste après les informations, toujours pour parler des recherches nord-sud sur le sida. On parlera aussi de la tuberculose et des co-infections avec l'exemple de ce qui se fait en Côte d'Ivoire avec la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan à l'occasion des 20 ans du site ANRS de Côte d'Ivoire. L'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites, est un organisme français de recherche scientifique qui travaille avec les pays du Sud et avec la Côte d'Ivoire. Ils sont 6 autour de cette table pour en parler, 6 chercheurs africains. Le professeur Thérèse Ndri, qui est ancien ministre de la Santé, elle est aujourd'hui coordinatrice Sud du site ANRS PAXI. Le professeur Serge Eoli, qui est coordinateur adjoint sud de l'ANRS et qui travaille aussi dans le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville. Le docteur Raoul Mo, épidémiologiste chargé de recherche au département dermatologie et infectiologie à l'UFR Sciences Médicales, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Serge Douaumois du programme national de lutte contre la tuberculose est également chef du service de pneumologie au CHU de Trècheville. Le docteur Irma Obabobo du programme national de lutte contre le sida et Yaya Kouli Bali, qui est président de RIP+. Juste avant les informations, on était justement en train de parler avec Yaya Koulibaly de la façon d'impliquer des patients, du rôle des associations pour impliquer des patients dans les essais thérapeutiques. Professeur Thérèse Ndri, vous aviez justement envie de réagir.
Oui, j'avais envie de réagir parce que je constitue un peu la mémoire de la recherche PAXI. Et au début, nous avons eu beaucoup de mal avec les associations de personnes vivant avec le VIH. Nous avons été attaqués, même avec ACT UP. Il y a eu des articles de journaux qui contestaient l'étude contre placebo, parce qu'ils trouvaient que c'était pas très moral de tester un médicament contre un placebo. Et finalement,
ce qui se fait normalement dans un essai thérapeutique. Voilà, un nouveau médicament, on teste contre un placebo, c'est-à-dire la poudre de perlimpinpin, pour savoir s'il est efficace ou pas.
Voilà, effectivement. Donc, je crois qu'on a eu beaucoup de séances de communication avec le monde associatif, et ça nous a beaucoup aidé. Donc, cette idée de signer des conventions avec les responsables des associations de personnes vivant à VIH nous a paru très utile. Et depuis que cela a été fait, les études se déroulent avec beaucoup plus de facilité. Et cette collaboration dirigée de main de maître par Koulibaly Yaya nous apporte beaucoup.
Vous vouliez réagir aussi, Serge Demois, du programme national de lutte contre la tuberculose.
Oui, effectivement. Et lorsque l'efficacité du cotrimoxazole avait été démontrée dans la prévention des infections opportunistes, et en Côte d'Ivoire, il y avait des études contre placebo qui étaient réalisées ailleurs, qui ont dû être arrêtés parce qu'on avait trouvé effectivement que c'était pas éthique à partir du moment où un médicament a prouvé son efficacité qu'on fasse encore des études contre placebo. Je pense que ça a été vraiment l'impact positif de ce que les associations ont eu dans les recherches contre placebo.
Professeur Serge Eoli, est-ce que vous avez du mal à trouver suffisamment de patients à inclure dans ces essais? Est-ce que c'est difficile de convaincre les gens que c'est une chance? Que moi, en fait, à force de travailler là-dessus, j'ai compris finalement que c'était une chance de participer à un essai thérapeutique parce que je pense qu'on est encore mieux suivi.
Tout est dans le mot chance. Parce que dans toute étude que l'on fait, il faut qu'il y ait avant tout un bénéfice pour le patient. Mais si la question de recherche est le bénéfice, c'est encore plus difficile de convaincre le patient. Je reprends Temprano. Si on prend une étude où on commence le traitement avec des patients qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème sans traitement, et qu'on leur donne un traitement qui leur donne plus de soucis en termes d'effets indésirables, de tolérance et de changement de vie, parce qu'un essai aussi, il y a des procédures que le patient doit respecter. Il y a un engagement à suivre cet essai. Comme nous avons un engagement, nous, à répondre aux bonnes pratiques de recherche qui supposent que aucun impact négatif ne doit être fait aux patients. Donc
c'est pas simple de comprendre en fait que quand on est porteur du VIH/SIDA, il y a plusieurs années pendant lesquelles on va très bien.
Voilà.
Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut se soigner.
Il faut se soigner, mais
pour empêcher le virus d'avancer.
La question de bien se porter ou mal se porter chez des patients qui apparemment sont en bonne santé est plus pas sur l'aspect physique, c'est plus des questions biologiques. Donc il faut bien discuter de ça avec le patient. Mais quand dans un groupe chez qui on a commencé le traitement précocement, ils se sont tous sentis mieux, et la moitié d'entre eux n'a pas fait d'infection, et on réduit la survie de ces infections de près de 50%, la communauté des patients vivant avec le VIH en général, pas celle simplement qui a bénéficié de l'essai, comprend que c'est bénéfique. Mais encore une fois, il s'agit d'amener les bonnes pratiques des essais cliniques à de la bonne prise en charge en routine. Dans un essai, par exemple, on fait de la charge virale, qui est le meilleur outil pour suivre l'efficacité du traitement. C'est à nous de dire aussi au programme national, ce qu'on vient de démontrer dans cet essai avec cet outil virologique, il faut le faire aujourd'hui en routine.
Ça veut dire qu'il faut parler avec le patient et parler un peu plus. Moi, j'ai tendance le sentiment que sur le continent africain, comme on manque de médecins, eh ben, les médecins ne passent pas beaucoup de temps avec les patients à leur expliquer.
Il ne faut pas réduire la notion de prise en charge à une relation médecin-patient. C'est une équipe. Dans un décès, c'est encore mieux fait parce qu'il y a toute une équipe qui est autour. On manque de ressources humaines dédiées aux patients, tant quantitativement que qualitativement. Et le programme national de lutte contre le sida en a fait son cheval de bataille, qui est celui de la délégation des tâches.
Je voudrais qu'on parle maintenant de la tuberculose, surtout de la co-infection sida-tuberculose. On a jusqu'à maintenant parlé surtout des études sur le sida simplement. Sur la question sida-tuberculose, quelles sont les recherches qui sont menées en ce moment par l'ANRS en Côte d'Ivoire ?
Il y en a trois, ben je vais dire trois principales. Je les citerai et Douma complétera. Il y en a une première qui est celle de voir des nouvelles molécules qu'on appelle des anti-intégrases. Il y a plusieurs familles de molécules. Est-ce qu'on pourra les utiliser dans le traitement en association avec le traitement antituberculeux qui contient une molécule qui est contre-indiquée avec certains antirétroviraux? Je n'entrerai pas dans le détail. C'est la rifampicine qui est un antituberculeux majeur.
Qu'on comprenne bien juste que quand on est porteur du VIH-SIDA, on a un système immunitaire qui du coup fonctionne moins bien, donc plus de risques d'attraper la tuberculose tout simplement.
Oui, parce que la tuberculose est endémique. La plupart des personnes vivant dans les pays endémiques ont déjà été en contact avec le bacille tuberculeux et le portent en eux. Et quand le système immunitaire se dégrade, cette tuberculose peut réapparaître. Donc cet essai est la suite d'un essai qui a été fait en France et au Brésil. On avait déjà évalué la molécule avec la rifampicine et on voit qu'on peut la donner à la même dose potentiellement. Et donc c'est un essai qui se fait dans plusieurs pays, en Afrique, dans les pays asiatiques, en France et aussi au Brésil. Le deuxième, qui correspond à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que la tuberculose, la première infection opportuniste au cours du sida, et apparaîtra de plus en plus fréquemment avec des formes de plus en plus sévères lorsque le taux de CD4 est bas, donc très bas. Donc là, on est en dessous, mais en dessous de la barrière de sécurité. Là, on a moins de 100. On va dire qu'on a carrément de la barrière d'insécurité. Et on se dit que de manière empirique, on pourrait, chez ces patients qui ont moins de 100 CD4, mettre un traitement antituberculeux, mais on va comparer avec...
Quand bien même, on n'a pas encore diagnostiqué la tuberculose.
Et on va comparer avec des patients qui ont le même taux de CD4, mais chez qui on a confirmé la tuberculose. Et cet essai nous dira, bon, on peut en faire le traitement empirique de la tuberculose avec un algorithme de décision, c'est-à-dire on décide quand on doit le faire, mais ça ne peut être fait qu'en accord avec le programme national de lutte contre la tuberculose.
Et alors justement, professeur Serge Demoy, j'ai envie de vous poser la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure au PNLS, au programme national de lutte contre le sida. En quoi le fait que ces études soient menées en Côte d'Ivoire vous aide-t-il? Et est-ce que ça veut dire que vous allez bénéficier plus rapidement des innovations sur la tuberculose?
Je voudrais dire que la coopération entre les études et les programmes, elle est très intéressante. Quand on revient à la tuberculose, avec l'avènement du virus de l'immunodéficience humaine, une question était de savoir si le traitement antituberculeux était efficace chez les personnes vivant avec le VIH. Il y a des chercheurs qui voulaient prolonger la durée du traitement antituberculeux chez les personnes co-infectées. Par la suite, les travaux ont montré que lorsque les personnes étaient infectées par le VIH, qu'elles prenaient correctement leur traitement, eh bien, les taux de succès thérapeutique ne différaient pas de ceux qu'on observait chez les personnes VIH négatives. Il y a eu également des études qui ont montré que les personnes infectées par le VIH, qui avaient en même temps le traitement antirétroviral concomitant, avaient une survie beaucoup plus élevée que celles qui n'étaient pas mises sous traitement antituberculeux. Ça a par la suite posé le problème du moment de la mise en route du traitement antirétroviral concomitant qui a été résolu puisque au niveau des instances internationales, on recommande aujourd'hui que le patient soit tuberculeux, soit traité par les antirétroviraux le plus tôt possible. Le troisième élément dont je voudrais parler, c'est la chimioprophylaxie et par le cotrimoxazole chez les tuberculeux co-infectés. Là encore, et dans l'étude qui a été faite à Abidjan, ça a été clairement prouvé que la réduction de la mortalité était de 46% et la réduction de la morbidité était de 43%. Donc, il y avait intérêt à faire ces recherches. Tant et si bien qu'à l'heure actuelle, on parle du paquet minimum de soins à administrer aux patients co-infectés. Et ce paquet minimum de soins inclut non seulement le traitement antituberculeux, mais aussi le traitement antirétroviral et la prophylaxie des infections opportunistes par le cotrimoxazole. Le problème qui se pose actuellement avec la tuberculose, C'est le problème de la réduction de la charge de la tuberculose chez les personnes infectées par le VIH. Donc ça pose aujourd'hui le problème du traitement préventif à l'isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH. Alors pendant longtemps, la Côte d'Ivoire n'avait pas adhéré à cette chimioprophylaxie systématique à l'isoniazide chez les PVVIH pour plusieurs raisons. Il y avait d'abord les difficultés d'identification de la tuberculose chez les personnes profondément immunodéprimées. Il y a des études qui ont été faites en Côte d'Ivoire, dont celle du docteur Lucas Sébastien. Et donc, il y avait le problème de la confirmation ou bien de l'exclusion d'une tuberculose évolutive avant d'administrer cette chimioprophylaxie à l'isoniazide chez des personnes qui étaient profondément immunodéprimées. Et donc, avec l'essai Temprano, on s'attend à voir les retombées de cette étude puisque parmi les patients, il y en a qui ont reçu de l'isoniazide. Alors, les premiers résultats sont apparus, on a eu des messages et que le fait d'ajouter le traitement à l'isoniazide, au traitement antirétroviral, permettait de diminuer la morbidité et la mortalité, la morbidité sévère. Et donc, aujourd'hui, on a amené à se demander qu'en est-il exactement pour la tuberculose. S'il est démontré que le fait d'administrer l'isoniazide à des patients qui sont sous traitement antirétroviral permet de réduire les épisodes d'apparition de la tuberculose, je pense qu'à terme, les recommandations pourraient changer et pourraient s'appliquer également à la Côte d'Ivoire.
On en revient toujours au fait que c'est intéressant, ces études qui sont menées en Côte d'Ivoire permettent de changer, on l'a vu tout à l'heure, même les guidelines de l'OMS, les préconisations de l'OMS, mais aussi ça vous permet, vous, de convaincre votre pays, la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé,
tout
de ce
fait,
qu'il faut faire.
Tout à fait. Dès lors que les preuves sont établies, il y a nécessité de changer les recommandations. C'est pour ça que nous attendons de Temprano, justement, que les choses soient mises en branle pour que éventuellement on révise la position. Peut-être que ce ne sera pas tous les patients tuberculeux co-infectés qui bénéficieront de l'isoniazide en prophylaxie, mais que ce sera peut-être une tranche de cette population-là qui pourrait profiter de l'isoniazide.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les 20 ans du site ANRS de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous donner la parole, on ne vous a pas encore entendu, docteur Raoul Mo. Vous êtes épidémiologiste, chargé de recherche au département de dermatologie et infectiologie, UFR Sciences Médicales. Avant de vous faire parler d'ailleurs de vos recherches, j'avais plutôt envie de m'intéresser, moi, à votre parcours. C'est quoi un parcours, entre guillemets, de jeune chercheur, même si vous allez me dire que vous n'êtes pas si jeune que ça, mais c'est quoi un parcours de chercheur ivoirien? Vous avez fait vos études de médecine ici à Abidjan.
Je suis, je dirais, un pur produit de cette collaboration Nord-Sud-là, parce que je suis médecin de formation, donc formé par la faculté de médecine d'Abidjan. Je suis recruté comme moniteur d'études cliniques à PAXI 9 mois après ma soutenance de thèse, donc en tant que médecin généraliste. Et le programme PAXI finance mes formations, des DU en épidémiologie, un master en épidémiologie.
Alors, sa formation au départ que vous faites qu'à Abidjan.
Oui.
Et puis après, une partie de formation aussi en France.
Voilà, exactement ça. Donc, je pars en France, je fais un master de recherche et d'épidémiologie jusqu'à la thèse au PhD de santé publique en 2012. Et parallèlement à ça, en 2006, je passe donc le concours de la fonction publique ivoirienne. Donc, depuis 2006, je suis fonctionnaire ivoirien au service de mon pays, au service de la recherche, au service de l'université Félix Houphouët-Boigny et dans ce cadre collaboratif là qu'est PAXI.
Ça veut dire que vous êtes un chercheur ivoirien rémunéré par la Côte d'Ivoire. C'était ça qui était important de préciser.
Exactement.
Et donc, vous êtes allé faire un complément de formation en France. On sait qu'il y a pas mal de médecins qui sont tentés et qui restent en France. Pourquoi vous êtes revenu? Ça faisait partie du deal de départ. Thérèse Ndry, elle vous a dit, non, ça marche que si tu reviens.
Oui, c'est une question pertinente. Mais les conditions de travail ici au sein de l'université et au sein de PAXI sont telles qu'on a aucun intérêt à rester en France. On travaille vraiment dans un environnement encadré par nos chers maîtres ici présents qui ne nous donnent aucune envie de rester en France. On a tout intérêt vraiment à rester ici. On a un profil de carrière, qui est vraiment très très intéressant aujourd'hui.
Donc la question se posait même pas.
La question ne s'est jamais posée à moi. Non. Je n'y ai jamais même pensé, rester en France et ne pas revenir dans mon pays.
Venir ici à Abidjan. Terendri, la NRS Côte d'Ivoire, c'est combien de chercheurs, combien de personnes qui travaillent?
Nous avons 99 personnes qui travaillent sur le site, dont 20 fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes rémunérées par la Côte d'Ivoire. Les autres sont rémunérées sur les projets de recherche. Parce qu'à chaque projet, nous recrutons des personnes comme moniteurs, comme auxiliaires de pharmacie, parce qu'il y a toujours une dispensation de médicaments, des gestionnaires de bases de données. Donc nous avons toute une équipe de personnes rémunérées par les projets.
Et c'est alors, donc, en gros, sur les quasiment 100 personnes, une vingtaine sont rémunérées par la Côte d'Ivoire. Les autres, c'est via les projets. Ça veut dire qu'il faut chercher des financements pour ces projets de recherche. Il y en a une partie, j'imagine bien, qui vient de la NRS en France. Le reste, comment vous trouvez? Je sais que vous travaillez aussi avec les Américains.
Oui, mais la grande majorité du financement vient de la NRS en France. Mais nous avons aussi une collaboration avec les États-Unis, notamment Boston, avec l'équipe de Ken Friedberg qui sera là. Mais il y a aussi ces études multicentriques et des réseaux que nous avons formés et qui aussi participent au financement, notamment les NIH dans le cadre du projet ID. Il y en a un réseau de 12 pays africains qui sont rassemblés dans le réseau ID.
C'est ça, le NIH, National Institute of Health. Et alors, il y a pas mal de ces études aussi, on ne l'a pas encore dit, qui sont menées en Côte d'Ivoire et qui sont menées avec le Nord, sont menées aussi avec d'autres pays du Sud, d'autres sites à NRS, je pense au Sénégal, au Cambodge.
Au Sénégal, au Burkina,
même le Cambodge,
Togo,
aussi.
La Guinée, le Cambodge, pour certains même des pays d'Afrique de l'Est, la Tanzanie. Pour des projets qui nous réunissent, nous avons fait des études partenariat sud-sud, sud-nord et bien au-delà, comme vous l'avez dit, en Asie, en Amérique.
Docteur Raoul Mo, dans tout ça, vous nous avez raconté votre parcours, mais vous n'avez pas dit ce que vous cherchez, sur quoi portent vos recherches.
Donc, depuis 2002, mon thème principal de recherche, c'est l'adulte infecté par le VIH, en termes de stratégie de traitement pour améliorer leur qualité de vie. Professeur Réoulier et professeur Indé en ont parlé, en termes de réduction de la morbidité, de la mortalité. Donc, c'est surtout ça, mes thèmes de recherche, l'adulte infecté, les interruptions de traitement programmées, le projet Trivacan, les traitements précoces. Le projet L'essai Temprano que j'ai coordonné également, le renforcement de l'observance au traitement antirétroviraux avec l'étude ILAO qui est multi-pays que je coordonne également. Et je suis heureux parce que depuis un an, je sors un peu du VIH et je vais coordonner un essai sur les hépatites C. Voilà,
on en parlera très longuement demain. On consacrera l'émission aux hépatites B et C, justement à tous les projets de recherche qui sont faits sur cette question. Professeur Réoulier, il y a une étude, si je ne me trompe, dont on n'a pas parlé, que vous allez démarrer sur la tuberculose dans la maison d'arrêt d'Abidjan.
La personne la mieux indiquée, professeur Domoy, parce qu'on a oublié de dire que la collaboration académique aussi suppose qu'on travaille maintenant avec les responsables de l'enseignement et la recherche en tuberculose. C'est professeur Domoy qui est l'investigateur.
Alors professeur Domoy, racontez-moi cet essai dans la maison d'arrêt d'Abidjan et pourquoi c'est important de mener un essai sur la tuberculose.
C'est important parce que il y a plusieurs études qui ont démontré que l'incidence de la tuberculose était environ 100 fois plus élevée en milieu carcéral qu'en dehors de la prison. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a eu des études parcellaires qui ont essayé d'aborder ce sujet. Donc, dans cette étude, il est question véritablement de voir quelle est la prévalence réelle de la tuberculose dans la plus grande prison de Côte d'Ivoire, qui est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. À travers cette étude, on va apprécier également les cas de résistance au traitement antituberculeux et je pense que les résultats de cette étude pourront éventuellement permettre d'améliorer la politique de prise en charge des malades en prison et surtout ceux qui ont la tuberculose puisque on sait que la tuberculose est aussi un pôle d'exportation et qui permet de partir du milieu carcéral et d'ensemencer les patients dans la communauté. Et donc l'étude devrait commencer depuis un an. Malheureusement, avec la crise socio-politico-militaires que nous avons connus. Les prisons ont fermé, il y a eu des évasions et c'est maintenant...
C'est un peu compliqué de mener les études scientifiques en prison.
Et c'est maintenant que la situation semble la plus propice justement à la réalisation de l'étude qui a commencé la semaine dernière puisqu'on a enrôlé déjà un malade.
Professeur Serge Daumois, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes aussi chef du service de pneumologie au CHU de Trècheville. Il en est où votre service? J'ai cru comprendre que ça faisait un petit moment qu'en fait il ne fonctionnait pas.
Bon, le service, grâce... à la volonté du gouvernement de voir ce service fonctionner correctement. Les réhabilitations sont finies et le matériel de l'équipement est acquis et l'ouverture sera une question du jour.
Mais ça fait combien de temps qu'il est fermé?
Il est fermé, ça fait bientôt 3 ans.
Ça quand même, dans un pays, enfin moi je sais pas qui veut réagir là-dessus, mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où je l'ai dit en début d'émission, ça fait 3 ans qu'on est sur des taux de croissance, les 2 dernières années de 10%, cette année en 2015 probablement de 8%, comment on n'arrive pas, on est dans la capitale, dans un des plus grands CHU, comment on n'arrive pas à faire mieux plus vite? Enfin, je veux dire, service de pneumologie quand même, c'est un service important.
Ce n'est qu'une question du jour, nous attendons... incessamment l'ouverture du service. Pour le reste, on ne pourra pas polémiquer.
Serge Ollier, vous avez envie de rajouter quelque chose?
Le plus important, c'est que ce n'est pas ouvrir le service. On peut ouvrir un service, mais c'est l'équipement. Et on parle de service de pneumologie avec beaucoup d'exploration et beaucoup de sécurité dont ils ont besoin maintenant par rapport au risque de transmission de tuberculose en milieu hospitalier, tuberculose résistante. Donc, ils sont arrivés à des exigences comme nous tous de qualité de service qui nous amène, nous, parfois, à retarder l'ouverture. Parfois, ça vient même des bénéficiaires de cette réhabilitation.
C'est vrai, c'est un autre sujet qu'on pourrait largement développer, c'est toute la question de résistance au traitement sur la tuberculose, mais on pourra un jour refaire une émission là-dessus. On va le faire d'ailleurs très prochainement dans le cadre de la Journée mondiale de la tuberculose. Professeur Thérèse Ndry, est-ce qu'il y a encore quelques études que vous menez en ce moment avec la NRS dont vous avez envie de nous parler? Il y a des études, entre autres, sur les enfants, la prise en charge des enfants atteints par le VIH-SIDA.
Oui, effectivement, il y a l'étude MONOD qui est une étude très intéressante parce qu'elle va permettre de démontrer l'efficacité d'une simplification du traitement chez les enfants, parce que pour les enfants, il faut améliorer l'observance, ce qui suppose réduire le nombre de prises. Et je crois que les résultats seront publiés demain. Et au cours de ces journées et ce travail est très intéressant et ça permet vraiment de simplifier les prescriptions chez les enfants. Mais il y a d'autres projets.
Alors les hépatites, on en parlera nous longuement demain.
Oui, mais pour faire court, je pense que c'est très important pour nous de faire cet essai parce que vous m'avez présenté comme coordonnateur sud, mais je suis le chef de service de médecine et de patho-gastro-entérologie au CHU de Yopougon. Donc les hépatites nous concernent énormément et c'est surtout l'évaluation d'un traitement oral de l'hépatite C par le sophosbuvir, un
nouveau
médicament.
Ça, on en parlera très longuement demain.
Donc,
un nouveau traitement
très important pour nous.
Très très cher. Voilà. Et puis la question, c'est aussi de savoir à quel prix il va arriver chez vous.
Et puis il y a un essai sur le VIH2. Vous savez que c'était...
Il y a deux types de VIH.
Voilà, deux VIH, c'est pas très bien connu. Alors, nous allons tester 3 lignes de traitement chez ces sujets. Je pense que ce sont des sujets importants pour l'amélioration de la prise en charge des patients.
Yaya Koulibaly, vous qui êtes président de RIPPLUS, j'aurais juste une dernière question à vous poser. Pour vous, quelles sont les difficultés qui persistent dans la lutte contre le sida aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Merci. Je dirais qu'en ce qui concerne les antirétroviraux, il y a vraiment... plus de soucis parce que les antirétroviraux sont disponibles, mais 3 difficultés majeures aujourd'hui, c'est le problème des laboratoires. La plupart des laboratoires ne sont pas fonctionnels. Et puis la charge virale encore demeure un luxe. Et le professeur Ollier l'a dit tout à l'heure, la charge virale n'est pas accessible à tous, donc il y a des efforts à faire à ce niveau. Et puis dans le souci de réduire le nombre de perdus de vue, l'implication des conseillers communautaires dans la prise en charge, c'est vraiment un problème. Les conseillers communautaires accompagnent les médecins prescripteurs dans la prise en charge des patients. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun statut. Et sur certains sites, leur intégration pose même problème. Donc je pense que de façon générale...
Il y a encore des choses à faire.
Voilà.
Professeur Thérèse Ndry, on arrive vraiment à la fin de cette émission. J'aurais encore une question à vous poser. On a parlé des recherches sur le sida. On a bien dit, demain, on parlera beaucoup plus longuement des recherches sur les hépatites. Vous vous intéressez aussi à Ebola?
Oui, bien sûr. nous sommes intéressés à Ebola. D'abord parce que notre pays a été protégé contre cette maladie à cause des mesures vigoureuses qui ont été prises. Donc c'est une expérience que nous devons partager. Et maintenant, nous avons participé à une étude en Guinée pour un essai thérapeutique avec un produit japonais. Les résultats préliminaires seront également communiqués demain, mais je pense que c'est un médicament qui donne beaucoup d'espoir.
Un antiviral qui serait un premier traitement, voilà, je dirais, efficace.
Efficace dans le traitement précoce. On revient toujours à ce mot de précoce.
Arriver suffisamment tôt dans
arriver suffisamment tôt pour avoir ces produits, pour réduire la mortalité.
Cet essai sur Ebola, c'est intéressant parce que là, ce sont des chercheurs ivoiriens, oui, qui sont allés en Guinée pour faire cet essai thérapeutique.
C'est ça.
On est dans la coopération sud-sud.
Donc, et puis de la solidarité sous-régionale que nous voulons développer, je pense que cette solidarité passe par des actes concrets. Et nous avons fait preuve de pragmatisme. En tant que coordonnateur sud, je voudrais quand même profiter de ce micro pour remercier l'ANRS pour ce soutien à la recherche pendant près de 20 ans. Et la Côte d'Ivoire se fera l'honneur de décorer certains des chercheurs dans l'ordre national.
Aujourd'hui, il y a des chercheurs ivoiriens qui vont être décorés.
Voilà, donc
c'est important de le dire. Merci beaucoup à tous les six d'avoir participé à cette émission. Demain, on sera toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai dit, on parlera des recherches menées sur les hépatites virales, hépatite B et C, l'arrivée d'un nouveau traitement qui permet de guérir de l'hépatite C, mais un traitement qui est cher. On en parlera beaucoup plus longuement demain. Merci à Didier Bleu pour la réalisation de cette émission. Au revoir à tous.